Vous êtes sur RTL.
Le Grand Jury, présenté par Olivier Bost.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury en direct sur RTL et sur Paris Première. Bonjour Arnaud Rousseau.
Bonjour Olivier Bost.
Vous êtes le président de la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, le premier syndicat du secteur. Vous êtes aussi céréalier et président du conseil d'administration d'un géant de l'agroalimentaire, le groupe Avril. Arnaud Rousseau, êtes-vous catastrophé, gêné ou plutôt compréhensif pour ce qui n'a jamais été vu au salon, ces images hier des CRS dans les allées, au milieu des animaux et puis des manifestants qui crient « Macron, démission ». Derrière la crise, voyez-vous des manipulations politiques, comme le dénonce le chef de l'État ? Et puis surtout, qu'est-ce qui permettra de sortir de cette situation extrêmement tendue et très douloureuse pour les agriculteurs ? Bienvenue dans ce Grand Jury, Arnaud Rousseau. À mes côtés pour vous interroger aujourd'hui, Pauline Buisson de la rédaction de M6.
Bonjour.
Et Loris Boischaud du Figaro.
Bonjour.
Nous allons parler donc des dernières propositions d'Emmanuel Macron pour sortir de la crise, bien entendu. Mais avant cela, un mot tout de même sur ce qui s'est passé hier, cette journée totalement inédite au Salon de l'Agriculture. Loris Boischaud.
Arnaud Rousseau, c'était une première journée au Salon de l'Agriculture chaotique hier, avec, on l'a dit, des affrontements entre CRS et agriculteurs manifestants. 300 à 400 manifestants véhéments, avec des interpellations aussi, 6 manifestants interpellés et 8 blessés parmi les forces de l'ordre, avec une visite du président de la République hier qui a été donc très agitée. Vous avez été choqué par ces scènes de heurts ?
Oui, j'ai été peiné et attristé parce que vous savez, le Salon de l'Agriculture, pour nous, les agriculteurs, c'est le rendez-vous annuel de la convivialité, c'est le rendez-vous annuel de l'échange avec tous ceux qui viennent nous rendre visite. Et je crois que les images qu'on a vues hier et le spectacle qui a été donné est pas très glorieux pour nous tous. Maintenant, je suis pas surpris. Je suis pas surpris parce que ça fait des semaines, nous l'avions dit, que nous sentions cette colère monter, cette colère sourde qu'on avait déjà mesurée sur les points de blocage il y a près de 3 semaines et qu'on avait décrite au chef de l'État en lui disant il y a une attente forte. Et donc elle s'est traduite hier, encore une fois, dans une forme que pour ma part je regrette.
Vous condamnez les violences qui ont eu lieu hier ?
On a toujours condamné les violences à la FNSEA depuis le début de cette crise qui, encore une fois, est une crise profonde, hein, qui vient de loin du secteur agricole. Nous avons toujours dit que nous ne voulions pas de violence, pas d'atteinte aux biens et aux personnes. Parce qu'encore une fois, trouver des solutions, se projeter, construire l'avenir, ça passe aussi par le fait de pouvoir échanger.
Est-ce que vous avez une part de responsabilité, votre organisation a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé hier ? Parce que parmi les manifestants, il y avait des membres de la FNSEA, identifiés FNSEA, et aussi des jeunes agriculteurs.
Vous savez, il y a 150 000 adhérents à la FNSEA, plus les anciens exploitants, on est plus de 200 000. Et donc, à la FNSEA, il y a aussi des gens qui, depuis longtemps, nous feront monter qu'ils n'y croient plus, que finalement, il y a une énorme colère qui est en eux. Et donc, encore une fois, ce qui s'est passé hier, je ne le découvre pas, je le dis, on la redit partout, nous ne voulons pas de violence. Mais cette violence,
on la comprend
ouais. Puisqu'on la vit nous-mêmes. Je veux dire que les responsables professionnels que nous sommes la subissons aussi, parce que les gens, quand ils nous parlent, ils s'adressent à nous, nous disent aussi mais qu'est-ce que vous faites ?
On n'en peut plus avancer. Vous condamnez et vous comprenez cette violence.
Non, mais vous savez, quand on ne répond pas aux attentes fortes, ou qu'on prend le temps, ou que 48 heures avant ce rendez-vous, avec cette... ce simulacre de grand débat où on invitait les soulèvements de la terre, évidemment, on remet de l'huile sur le feu et donc on l'a déploré. Maintenant, ce qu'il faut, encore une fois, c'est avancer, regarder devant, trouver des solutions concrètes dans les exploitations et faire en sorte que ce qui a été vécu hier ne se renouvelle pas. Moi, je pense que le président de la République, il a bien vu ce qui s'est passé hier et je ne suis pas sûr qu'il ait passé une bonne journée. Donc, maintenant, il faut arrêter de parler du passé, il faut se projeter.
Juste quand même pour revenir sur la journée d'hier, comment vous la décrivez ? C'était quelque chose de totalement chaotique, c'est quelque chose totalement inédit, ça c'est certain, mais vous avez été, comment vous avez vécu cette journée, vous ?
Pour ma part, ça fait 25 ans que je vais au Salon de l'Agriculture, tous les ans. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu des forces de l'ordre en habit à l'intérieur du salon, je n'ai jamais vu déplacer des animaux, je n'ai jamais vu autant de gens furieux, que ce soit d'ailleurs des agriculteurs ou les visiteurs qui étaient parqués dehors. C'était une situation de chaos total.
Est-ce que c'était raisonnable pour le président de la République d'aller au salon ?
Écoutez, c'est sa décision. D'abord, il était invité au salon, je voudrais le dire, comme il l'est tous les ans. Donc voilà, maintenant, On lui avait décrit la situation. Il nous avait invités mardi dernier à nous rendre à l'Élysée, comme nous le faisons tous les ans, pour faire le point de préparation de ce salon. Et donc, il savait parfaitement. Est-ce qu'il mesurait le tel niveau de défiance? Je ne le crois pas. En tous les cas, hier, il l'a bien constaté.
Est-ce que ces actions violentes, elles peuvent nuire à la cause agricole? On sait que vous êtes plutôt soutenu par l'opinion publique. Est-ce que vous pensez que ça peut changer les choses?
Écoutez, je peux comprendre que hier, quelqu'un qui prévoyait de venir avec ses enfants ou ses petits-enfants au salon y ait renoncé, parce que les images qui ont été vues, évidemment, ne plaident pas pour ce grand moment de convivialité. Et évidemment, encore une fois, je déplore ces images. Je comprends que ça puisse interroger, mais je le dis. D'abord, nous avons appelé au calme. Depuis des semaines, en décrivant par ailleurs cette attente forte du monde agricole, je crois que personne ne la découvre, en tous les cas pour ceux qui suivent cette actualité. Et nous ne voudrions pas évidemment qu'il soit simplement retenu cet épisode, qu'encore une fois, était probablement un passage nécessaire, mais qui doit nous projeter à trouver ensemble des solutions.
C'est ce qu'on a redit. Dans le calme après ces événements.
Écoutez, je le dis hier soir, bien sûr, et non seulement il doit, mais il faut absolument que ça se tienne dans le calme. D'abord parce qu'on attend des membres du gouvernement qui viennent avec des réponses concrètes, et donc ça, on les invite à faire le travail. On attend de l'ensemble des délégations politiques, de tous les partis politiques, qui vont venir cette semaine, qui nous disent ce qu'est l'ambition. Mais le salon, c'est 600 000 visiteurs en près de 10 jours. Et ça, on a besoin de dire qu'il faut qu'ils continuent à venir, parce qu'il y a aussi des gens qui sont fiers de leurs produits, de leurs animaux, du concours général, et que ça doit rester un moment de convivialité.
Et s'agissant des 6 manifestants interpellés, est-ce que vous avez des informations sur leur profil? Est-ce que
non, je n'en ai pas.
Des membres de votre syndicat
Non, je n'en ai pas. Je crois que le préfet de police, hier soir lui-même, qui a communiqué, n'en avait pas. On en aura dans les prochaines semaines. Mais je veux dire...
Il y a des membres de votre syndicat dans ces interpellés?
Je ne sais pas. Il est possible qu'il y en ait. Je ne sais pas. Je n'ai pas les identités. Ce que je sais, c'est qu'il y en ait ou pas. Ne change rien à la fois la journée chaotique d'hier, à la manière dont on se projette et à la manière, encore une fois, dont le président de la République a reçu ces informations. Je redis, on a près de 200 000 adhérents à la FNSEA. Nous, les responsables, les élus de ce syndicat, on a toujours appelé au calme et à la responsabilité. On essaie de prendre du recul dans un moment, je le redis, d'une tension inédite dans le monde agricole depuis près de 30 ans.
Gabriel Attal sera sur place mardi. On peut s'attendre à des mêmes scènes de violence, selon vous ?
Écoutez, là encore, je ne souhaite pas qu'on revive ce qu'on a vécu samedi avec le président, mais évidemment, le Premier ministre est attendu, est très attendu pour qu'il continue, après sa conférence de presse de mercredi, à nous donner des éléments de la déclinaison de ce qu'il met en place. Il avait dit que d'ici le salon, il y aura un certain nombre de choses. Je pense notamment au grand plan élevage que le Premier ministre devait ce matin au ministère de l'Agriculture déployer devant les représentants des éleveurs. Vous voyez, le travail continue, donc je pense qu'on aura un point supplémentaire. Et je le redis, je ne souhaite pas de violence dans ce salon. Ça n'est pas l'endroit, même si, encore une fois, la violence, nous, on la sous-tend depuis des semaines et qu'elle a pris un caractère très visible hier, mais qu'elle est là depuis longtemps.
Avant de revenir sur les mesures et les solutions, Emmanuel Macron a dit hier, il y a des gens qui sont venus pour mener une campagne politique et faire monter le Rassemblement national. L'agriculture mérite mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que la colère des agriculteurs est plus large que ça?
Bon, d'abord, on est dans un temps éminemment politique, avec cette crise, avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement, avec les élections qui se profilent, les élections évidemment européennes, avec le climat national, si je puis dire, mais aussi international. On voit bien que sur les géopolitiques en ce moment, c'est compliqué.
Ça veut dire que vous avez l'impression d'être instrumentalisé?
Je redis que, je le dis depuis des semaines, la FNSEA n'est pas un syndicat politique. La FNSEA, elle a dans ses adhérents des socialistes, des radicaux de gauche, des gens du centre, des gens de la droite, des gens qui sont aujourd'hui chez Reconquête ou au Rassemblement National, elle a tous les profils d'agriculteurs. Et d'ailleurs, c'est à la fois une de ses difficultés et une de ses forces.
C'était pas le sens de ma question. Le sens de ma question, c'était est-ce qu'il y a des manipulations politiques comme Emmanuel Macron le décrit? Est-ce que vous voyez ça, vous?
Non, mais moi, je réponds pas à ce genre de questions. Je vois bien qu'il y a des gens qui voudraient instrumentaliser cette colère agricole. Ça, je le vois, je le mesure tous les jours. Et d'ailleurs, à peu près à tous les endroits de l'échiquier. Ça n'est pas notre calendrier, ça n'est pas notre objectif. À la FNSEA, ce qu'on veut, c'est que les agriculteurs, dans le cours de ferme, dans les prochaines semaines, sentent que ça change. Ensuite, les agriculteurs sont bien assez grands, vous savez, ce sont des gens indépendants, les agriculteurs. Ils n'aiment pas bien qu'on leur donne des consignes, et ils feront exactement ce qu'ils veulent au moment du vote, et la FNSEA, comme d'habitude, ne donnera pas de consignes.
Jordan Bardella visite le salon aujourd'hui et demain. Est-ce que vous allez le rencontrer? Il est le président du Rassemblement National.
Oui, écoutez, nous avons un rendez-vous planifié demain à l'agenda, donc je rencontrerai M. Bardella comme je rencontre l'ensemble des partis politiques qui demandent à rencontrer la FNSEA.
Et qu'est-ce que vous pensez du message du Rassemblement National sur l'agriculture? Un message notamment protectionniste?
je discuterai du volet européen avec M. Bardella. Le protectionnisme en agriculture, c'est pas possible. C'est pas possible parce que quand vous êtes un viticulteur, quand vous êtes un producteur de céréales, quand vous êtes un producteur laitier, même quand vous êtes un éleveur de viande bovine, vous avez des échanges qui se situent à l'intérieur de l'Union ou au-delà des frontières. La viande bovine, par exemple, va en Algérie, alors plus depuis quelques mois, et c'est un véritable problème, mais les vins français et les spiritueux sont tout en haut de la balance commerciale agroalimentaire. Les céréales, évidemment. Les produits laitiers, on est encore excédentaire et on exporte des fromages. Donc, le protectionnisme en soi n'a pas de sens en agriculture.
Ça veut dire que, est-ce que vous diriez, comme Gabriel Attal, par exemple, que le Rassemblement national est le vautour de la colère agricole sans bilan ni cohérence ?
Non, je ne dis pas ça, puisque c'est un propos éminemment politique que je ne tiens pas. Je ne peux pas vous dire que... à la fois, on a une forme de neutralité par rapport à ça et commenter ce
mais
genre de...
Mais vous mettez en garde sur la volonté de protectionnisme du
Non, mais nous, je crois vous avoir répondu clairement sur le protectionnisme. Nous, on considère qu'on doit rester dans un monde ouvert. Ce qu'on demande, en revanche, c'est de la réciprocité. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir continuer à commercer et échanger. Allez, soyons concrets. Les Français qui boivent un café le matin, ce ne sont pas les agriculteurs français qui vont le produire tout de suite. Bon. Donc il faut qu'on continue à avoir des échanges, et ce n'est pas un problème d'avoir des échanges. Ce qui nous heurte, nous agriculteurs, c'est qu'on ait un commerce qui s'opère au niveau mondial, avec de la réciprocité qui n'est pas au rendez-vous, avec des conditions de production et de normes qui ne ressemblent à rien par rapport à ce qu'on nous impose. Et par ailleurs, avec très très peu de contrôle. Donc ça, on ne le supporte pas. Mais entre être lucide sur le fait qu'on veut de la réciprocité et dire qu'il faut continuer à échanger, il me semble qu'il y a là un propos très clair.
Vous sentez dans vos rangs une poussée du Rassemblement national, dans vos rangs, dans votre syndicat ?
Oui, bien sûr, on a aujourd'hui un certain nombre de nos adhérents qui se revendiquent de ce parti, mais encore une fois, dans nos conseils d'administration, dans nos prises de position, ni de près ni de loin, les considérations politiciennes, si je puis dire, ne rentrent en ligne de compte. Nous, on s'astreint à porter une ambition, on a redit qu'on était pro-européen à la FNSEA, mais qu'en revanche, cette Europe, telle qu'elle était construite, ne nous allait pas. Et pour une raison assez simple, c'est que l'Europe aujourd'hui, c'est l'essentiel des politiques publiques et c'est l'essentiel de la construction du prisme agricole. Donc on ne va pas se tirer une balle dans le pied à la FNSEA. Mais par ailleurs, qu'on ait des adhérents qui soient très hostiles à la manière dont ça se passe, je vous le confirme.
Votre prédécesseur à la tête de la FNSEA, en 2017, avait justement défendu, entre les deux tours de l'élection présidentielle, le principe du libre-échange et avait défendu également l'Europe. Ça avait été considéré à cette époque-là comme une prise de position politique et un soutien, quelque part, à Emmanuel Macron. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas aussi... à travers ce que vous êtes en train de dire, dans un soutien ou en tout cas un choix politique.
L'indépendance, M. Bost, c'est ça auquel nous travaillons tous les jours.
À ce moment-là, c'était une erreur entre les deux tours
Je ne l'aurais pas fait à titre personnel, parce que je considère qu'encore une fois, les agriculteurs, vous savez, ils n'attendent pas de leur responsable professionnel qui leur donne des consignes de vote. En revanche, ils attendent de leur responsable professionnel qui donne une ligne claire sur l'ambition. Et si nous ne sommes pas un parti politique, je ne suis pas naïf non plus, on a une vision politique qui porte clairement la place de l'Europe dans le cadre, qui place clairement la possibilité d'échanger, qui place la possibilité aussi de la liberté d'entreprendre. Hein. Notre mission, c'est d'accompagner les femmes et les hommes qui ont le goût d'entreprendre en agriculture. Donc, vous voyez, on est clair sur la vision politique. En revanche, on ne prend pas de parti pris. Et dans le moment dans lequel on est, vous savez, c'est une gageure d'essayer de rester un peu au-dessus de tout ça, parce que tout le monde vous invite à vous dire est-ce que vous êtes là, là ou là. Je lutterai aussi longtemps que je le pourrai pour expliquer que l'ambition de la FNSEA, elle est très claire. Elle est de continuer à produire pour nourrir les Français une alimentation de qualité avec les standards les plus élevés de la planète et que pour les restes, les agriculteurs n'attendent pas de la FNSEA qu'elle leur donne des consignes politiques.
Mais justement, Marine Le Pen avait visé la FNSEA au début de la crise en disant « ça fait bien longtemps que les agriculteurs ne peuvent plus compter sur leur syndicat ». Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Écoutez, Marine Le Pen assume les propos qu'elle souhaite. Nous, notre rôle, c'est de continuer à le faire. Je vous ai expliqué que les agriculteurs étaient la classe socioprofessionnelle la plus syndiquée, parce qu'ils ont une conscience collective que l'organisation collective est le meilleur moyen de se défendre. On est de moins en moins nombreux en France. On n'est pas à peu près plus que 400 000, très atomisés, avec des typologies d'exploitation très différentes, des territoires différents, Il n'y a pas un modèle agricole, comme je l'entends souvent à Paris, on n'a que des modèles agricoles différents, et c'est ce qui fait notre richesse. Et donc les agriculteurs comprennent bien que se regrouper en syndicat, c'est aussi moyen de porter l'ambition. Mais si Marine Le Pen vient me voir, je lui dirais que dans le moment de grand trouble dans lequel nous sommes, si les syndicats n'étaient pas là, pas simplement la FNSEA, mais si les corps intermédiaires n'étaient pas là, qui négocie avec le gouvernement ? Qui le fait ? Si Mme Le Pen, qui aspire à devenir présidente de la République, demain se trouve en situation de gouverner, les corps intermédiaires continueront à être là et ils joueront leur rôle. Et moi, je pense que c'est important, au moment où finalement on s'interroge sur le fonctionnement démocratique, de réaffirmer, en tous les cas, je le fais au titre de la FNSEA, que le rôle d'un corps intermédiaire, c'est de représenter une partie de sa base. Et je vous ai dit qu'on avait quand même un nombre d'adhérents très conséquent. En tous les cas, on est le premier syndicat. Il est vrai que tout le monde n'est pas syndiqué, mais comme d'autres secteurs d'activité économique, et que nous, nous portons la voix et l'ambition de nos adhérents, et qu'on continuera à le faire. On le fait depuis 78 ans, avec tous les gouvernements qui sont succédés, qu'ils soient de droite, de gauche ou du centre. Et notre ambition, c'est de continuer à le faire.
Et je reviens un instant sur le fiasco du grand débat qui n'a pas eu lieu, notamment parce que les soulèvements de la terre, les activistes écologistes avaient été invités. Des conseillers agriculture de l'Élysée sont pointés du doigt pour avoir voulu inviter justement les soulèvements de la terre. Ces conseillers ont pour point commun, ces conseillers d'Emmanuel Macron, pour point commun leur engagement passé pour l'écologie. Est-ce que Emmanuel Macron est mal conseillé, mal entouré ?
Moi, je parle au chef de l'État quand il m'invite. Après, la manière dont il gère ses conseillers, l'Élysée, le fonctionnement interne, ça n'est pas mon sujet, voyez-vous. Et donc, si...
De ce fiasco, vous ne tirez aucune conclusion ?
Non, mais de ce fiasco, j'ai eu une explication très franche avec le président de la République. Et vous avez vu que j'avais eu une réaction. Depuis le début, nous disons à la FNSEA que nous sommes ni dans la défiance, ni dans la complaisance. Vous voyez, c'est la position équilibrée qu'on essaie de porter depuis des semaines. Et je vous prie de croire que ce n'est pas facile. Donc, discuter avec le gouvernement pour trouver des solutions, c'est notre devoir. Se faire instrumentaliser et passer pour des dindons de la farce, il n'en est pas question.
Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir pu débattre avec les industriels, les distributeurs et même des ONG ? C'était l'objet de ce grand débat à l'origine.
On avait proposé au président de la République qu'il y ait un moment de rencontre avec le monde agricole, la FNSEA, mais d'autres syndicats, y compris des non-syndiqués, parce que ça nous paraissait important d'avoir cet échange, y compris de manière un peu virile, parce que, vous l'avez vu, les agriculteurs avaient des choses à dire. On nous a proposé un simulacre de grand débat avec les soulèvements de la terre. Pour ce qui concerne les OG et les distributeurs, on le fait tous les jours, on le fait tous les mois. Je rencontre un certain nombre d'ONG, des partis politiques, encore récemment Mme Tondelier, dont on ne peut pas dire qu'elle soit complètement alignée avec la FNSEA. Notre rôle, c'est de parler avec tout le monde. Parler avec tout le monde, ce n'est pas renoncer à ses ambitions, ce n'est pas renoncer à une colonne vertébrale. En revanche, ce qui nous a été proposé jeudi a été vécu comme une provocation. Et dans le moment dans lequel on est, je pense que c'était très maladroit.
Loris Boischot.
Arnaud Rousseau, venons-en au fond des mesures. Une série de concessions ont été faites ces dernières semaines par le gouvernement. Avantages fiscaux pour la transmission des fermes, plan pour l'élevage, mesures de simplification, contrôle renforcé sur les prix d'achat aux agriculteurs, nouvelle loi agricole, abandon de l'indicateur français sur les pesticides, abandon également de la hausse de la taxe sur le carburant des tracteurs. Qu'est-ce que vous voulez de plus ?
D'abord, pardonnez-moi, mais ça n'est pas une concession. C'est une nécessité pour reprojeter un projet pour l'agriculture. Parce que le problème du moment, derrière tout ce que vous indiquez, c'est le logiciel. C'est
plus de 400 millions d'euros de dépenses au total.
J'ai bien entendu. J'ai bien compté aussi. Je redis que ce qui comptait, c'était de changer de logiciel. Et donc, il y a eu un certain nombre d'avancées. Ce qu'on attend du président de la République, encore une fois, c'est la direction. Il a rappelé hier qu'il souhaitait changer le logiciel. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est passer et faire l'ajustement du système.
Ça veut dire quoi, changer le logiciel ? C'est un terme très, très large.
Non, mais changer le logiciel, je vais être très concret. Le président de la République avait porté l'ambition du pacte vert, le fameux Green Deal européen, sur lequel, concernant le volet agricole, parce qu'il n'y a pas que le volet agricole, mais sur le volet agricole, ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette, il y avait un prisme décroissant de 15% de la production alimentaire en Europe. Changer de logiciel, ça veut dire que ça, on y renonce et qu'on réaffirme que dans le moment dans lequel on est, avec ce Green Deal pensé en 2019, alors qu'il y a eu le Covid et la guerre en Ukraine, il faut qu'on réarme, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République lui-même, notre production alimentaire, pas simplement alimentaire d'ailleurs.
Ça, c'est pas acquis de revoir ce principe.
Écoutez, moi je vais bien regarder ce que propose l'ensemble des partis politiques et je vais regarder ce qui se passe dans le cadre des élections européennes. C'est pas la FNSEA tout seul qui y parviendra. Donc on a besoin de le faire.
Ça veut dire qu'avec cette stratégie, vous craignez quoi ? Une baisse de la production, c'est ça en fait ?
On la craint pas, on l'observe. Elle est là. Elle est là. Plus d'importations tous les jours, c'est près d'un tiers de l'alimentation des Français qui est aujourd'hui importée. Vous savez, on a longtemps fait le procès à la FNSEA du productivisme. Pardonnez-moi, ça a vécu. Aujourd'hui, on est clairement en train d'ouvrir nos portes à des produits qui ne respectent ni nos normes, ni nos standards de production. Alors, et je veux que vos auditeurs l'entendent, qu'on est en France dans le pays qui a les plus hauts standards de production agricole avec une alimentation parmi les plus durables au monde. J'aimerais le rappeler parce que si mais on doit continuer à faire des efforts...
Il faut revoir ces standards.
Non mais je veux être précis. Il nous faudra des normes parce qu'on a besoin de produire. Là le sujet, pas simplement qu'en agriculture, c'est que ce qu'on veut retrouver, et on l'a dit, c'est de la dignité et le sens du métier. Parce qu'il y a des gens qui comprennent plus qu'on leur demande. On leur demande de la qualité et du haut de gamme et toute la journée on achète des poulets d'importation ou de la viande d'importation. Ça n'est pas cohérent. On leur a demandé le juste revenu de nos produits. Parce que quand vous êtes un agriculteur...
Ça c'est un changement de logiciel chez le consommateur. Là, que vous
non, mais attendez, je vais jusqu'au bout. Même chez les pouvoirs publics, vous voyez. Parce que l'épisode qu'on a vécu jeudi soir avec les soulèvements de la terre, ça montre que là, il y avait un petit problème de système. La juste rémunération, c'est comment on continue à se dire que dans un marché ouvert, on donne des atouts pour continuer à produire et qu'on regarde les facteurs de compétitivité. Vous voyez, ça, c'est très concret. Et ensuite, la modification du quotidien du métier. Les agriculteurs n'en peuvent plus de reproduire et de remplir des papiers. C'est pas vrai que dans l'agriculture. Moi, quand je rencontre des chefs d'entreprise d'autres secteurs, ils nous disent surtout, ouvrez la voie, on est d'accord, on est avec vous. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on simplifie ?
Ces chantiers-là ont été ouverts. Quand Loris Boischaud vous demandait qu'est-ce que vous voulez de plus, qu'est-ce qui aujourd'hui manque par rapport à tout ce que le gouvernement a proposé ?
Il manque le fait que dans la ferme, on puisse regarder concrètement ce qu'est-ce que ça a changé. Je vais vous dire, les agriculteurs, toute la journée, me disent des promesses de politique, on en entend depuis des années. Moi, je n'y croirais que quand je verrai dans ma ferme le changement.
Ça veut dire que vous ne faites plus confiance à la parole publique, c'est ça en fait?
Oui, il y a une vraie défiance. C'est exact. Il y a une vraie défiance vis-à-vis de la parole publique. Vous avez raison de le préciser.
Et quand Gabriel Attal dit la moitié de ce qu'on avait annoncé est déjà réalisé, c'est pas vrai?
Non, mais attendez, à ce stade, ça ne se voit pas. Prenons un exemple concret. Sur le GNR, ça a commencé avec des remboursements qui ont commencé. Donc là, ça commence à se voir. Mais par exemple, le pied de facture qui est prévu pour le mois de juillet...
Gazole non routier, GNR.
Oui, absolument, pardonnez-moi. Donc c'est le gasoil qu'on met dans nos tracteurs qui n'est pas le même que celui qu'on met dans une voiture puisqu'il est coloré. Et donc ce gasoil non routier qu'on met dans nos tracteurs, aujourd'hui, l'agriculteur demande un remboursement. Il y a une avancée notable que je souligne et qui était attendue, qui est le fait qu'on ait la remise tout de suite de cette taxe au moment où on commande chez notre marchand de gasoil. Eh bien, ça se mettra en place au mois de juillet. Et les gens, ils veulent des preuves concrètes que ça se met en place.
Donc c'est
je donne un autre exemple.
Pardonnez-moi, mais la question, ça veut dire que ça ne va pas assez vite?
Oui, mais ça ne va pas assez vite.
C'est d'autres engagements que doit prendre le gouvernement.
Ça ne va pas assez vite, mais vous savez, c'est ce qu'a dit le président de la République hier, lui-même. Je reprends ses propos. Il voit bien qu'entre ce qu'est l'annonce politique et la volonté politique et sa déclinaison par l'ensemble des administrations publiques, ne va pas assez vite. Ce n'est pas lui qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a précisé hier. Et donc, comme les agriculteurs disent, moi, tant que je ne l'ai pas en dur dans ma cour de ferme, j'y crois pas.
Donc
on a
vous
un
allez
petit
rester
moment
mobilisé
de
jusqu'à ce que des
le président de la République, d'abord, si on est juste et qu'on regarde les choses de manière froide, il y a des choses qui ont commencé. Par exemple, les agriculteurs qui ont des problématiques avec leurs troupeaux de MHE, c'est une maladie sanitaire, la maladie hémorragique épizootique qui touche le sud de la France. Très concrètement, ces gens commencent à avoir le remboursement de ce que sont les sinistralités vécues dans leur ferme. Donc il y a des choses qui ont démarré. Et ça, c'est bien, et c'était attendu. Même chose pour ceux qui ont subi la tempête en Bretagne, vous savez, la tempête qui a causé des dégâts majeurs.
Il y a eu des mesures aussi pour la viticulture. Quels sont les secteurs?
Pour l'agriculture biologique, que je n'oublie pas, parce que c'est aussi un secteur qui est en grave crise en ce moment, très grave crise. Il faut absolument qu'on soutienne l'agriculture biologique pour faire en sorte que les hommes et les femmes qui ont fait ce choix de production ne se déconvertissent pas, c'est-à-dire ne changent pas de modèle de production.
Qui est encore oublié, c'est l'élevage,
Alors il y a un grand plan élevage dont on attend des choses, notamment pour l'apiculture. Mais vous savez, les secteurs agricoles sont si nombreux, il y a beaucoup d'attentes. Mais je dis qu'il faut que ce soit concret. Et on avait dit premier temps les urgences. Et là, on commence à en voir les premiers fruits. Et ça, c'est de nature à ce que les gens se disent ça, aïe, ça marche. Ensuite, il y a tout le sujet de simplification. Aujourd'hui, ça se voit pas. Interroger un agriculteur du Nord-Pas-de-Calais, du Pas-de-Calais plus exactement, qui a les pieds dans l'eau depuis des mois et à qui on a dit, le président de la République lui-même, on va curer les fossés, au moment où je vous parle, c'est pas fait. Si, c'est fait parce qu'il y a des gens qui, de guerre lasse, ont pris les grues et ont fait le travail.
Mais vous croyez vraiment à la disparition de toute cette charge administrative ?
Non mais on n'est pas des naïfs, vous savez, les paysans, on va pas les balader, je le dis depuis le début. Mais acceptons de dire que si on a mené ce combat, et c'est le rôle d'un corps intermédiaire, il faut qu'à un moment, on ait des résultats. Parce que vous savez, derrière, si le seul avenir, c'est la désespérance et la violence, eh bien, ça sera sans nous. Et après, le gouvernement se débrouillera. Donc, il y a des choses qui ne se voient pas. Et puis, on avait dit très clairement qu'au moment du salon, il y avait un rendez-vous. Donc, le chef de l'État nous a donné rendez-vous la semaine
du 15 mars, dans trois semaines, pour clôturer cette séquence. Et il le fait avec les filières, et c'est une bonne chose, parce que pour construire de la valeur, pour construire du prix, il faut aussi qu'il y ait les filières. Et enfin, il y avait un troisième temps.
Juste sur ce rendez-vous, pardonnez-moi, dans trois semaines, vous l'imaginez comment ? C'est un moment qui va être un moment de débat, c'est un moment qui doit être ouvert. Comment vous voyez les choses ?
Pour ce qui nous concerne, en tous les cas, on pense que le travail doit se faire avant pour que ce soit le chef de l'État qui clôture cette séquence. Ça nous semble important.
Ce serait quoi, une forme de sommet de l'agriculture à l'Élysée avec,
Bon, c'est vrai que les sujets d'organisation à l'Élysée peuvent nous laisser un souvenir un peu amer.
Mais vous allez suggérer un grand débat, mais vous pouvez suggérer d'autres formes.
Mais on sera dans le détail, voyez-vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la vision.
Et pendant ces trois semaines, il va y avoir des nouvelles mobilisations, des nouvelles actions ?
Oui, on va continuer à maintenir la pression. Après, vous savez, on a essayé de le faire, encore une fois, de manière la plus précise et tenue possible. On a aussi les travaux des champs qui vont redémarrer dans quelques jours.
Non, parce que vous aviez donné quand même un rendez-vous. Le rendez-vous du Salon de l'agriculture, par exemple, a été vraiment fixé comme un moment qui allait être important. Est-ce que ce nouveau rendez-vous fixé par le président de la République dans trois semaines est aussi quelque chose d'important où il peut y avoir des nécessité de mobilisation d'ici là ou c'est pour votre
avis ? On a tous fait le constat hier que le moment n'était pas propice à clôturer la séquence. Vous avez vu le niveau de tension, ça n'était pas décemment possible.
Donc pour vous, dans trois semaines, ça clôture vraiment, on sort de la crise
non,
et on
j'ai
passe
pas dit
à...
ça. J'ai pas dit ça. Non. J'ai dit dans trois semaines, on clôture cette séquence. Vous savez, nous, on a dit qu'on était inscrit dans le temps. Il y avait le temps des urgences, il y avait le temps du travail, parce qu'on a travaillé d'arrache-pied avec nos partenaires des jeunes agriculteurs. Pour faire des propositions concrètes au gouvernement, qu'on souhaitait voir clôturer au moment du salon. Au regard du degré de tension, je pense que se donner quelques semaines de plus pour atterrir sur les mesures de simplification et voir de manière très concrète, comme je viens de vous l'indiquer, des choses, ça va dans le bon sens. Et puis on avait dit, il y a des choses de plus long terme, sur lesquelles on va rester très vigilant. D'abord la loi, parce que tout ça doit aussi, à un moment, se cristalliser dans une loi. Le Premier ministre avait dit, l'agriculture au-dessus de tout. Parfait, mais maintenant, il faut que ça se concrétise. Or, cette loi, tout le monde le comprend, d'abord besoin d'être écrite, ensuite de passer devant les parlementaires, et donc on s'était donné jusqu'au mois de juin. Et puis, il y a tout le volet européen, qui est central dans l'agriculture. Il y aura dès demain, à Bruxelles, une réunion des ministres de l'agriculture, un conseil des ministres de l'agriculture. On en attend beaucoup.
Eh bien, on va parler de tous ces sujets concrets dans la seconde partie du Grand Jury. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, était avec nous. Et on parlera notamment de l'une des mesures avancées par le président de la République hier au Salon de l'agriculture, la question des prix planchers. Je crois que ce n'est pas votre idée. À tout de suite.
Grand Jury, présenté par Olivier Bost.
Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA et l'invité de ce Grand Jury ce dimanche. Nous allons parler de la dernière annonce d'Emmanuel Macron lors du Salon de l'agriculture hier. Pauline Buisson.
Oui, Arnaud Rousseau, l'instauration de prix planchers par filière fondée sur les indicateurs de coûts de production. Est-ce que vous croyez à ces prix planchers ?
Alors, évidemment, cette déclaration du président de la République nous a un peu surpris. Je ne crois pas que sa politique économique tel qu'il apporte depuis le début, soit de soviétiser l'économie. Donc, on a demandé quelques éclairages et explications. Je vais vous dire ce que nous, on porte.
Le ministre de l'Agriculture dit qu'il ne s'agit absolument pas de soviétiser l'économie. Il a précisé.
Oui, mais je ne suis pas surpris qu'il l'ait dit. Mais encore une fois, essayons d'être précis. Nous, on va vous dire ce qu'on porte à la FNSEA. Ce qu'on porte à la FNSEA, d'abord, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de vente en dessous des coûts de production. Premier élément.
C'est une forme de prix plancher, alors ?
Non, c'est la loi qui le prévoit. On ne peut pas aujourd'hui vendre en dessous de ces coûts de production. Et nous, surtout, c'est la construction du prix en marche avant. Et je vais essayer d'être précis. Ce qu'on veut, c'est que dans toutes les filières, on ait des coûts de revient interprofessionnels. Vous voyez, des coûts de production interprofessionnels. Donc, dans la viande, dans le lait, dans le porc, on a...
Donc, ça veut dire que, par exemple, pour le secteur du bœuf, vous dites, le 1 kg de bœuf, ça vaut tant.
Exactement.
Ça coûte tant de le produire.
C'est déjà calculé aujourd'hui. Ouais. C'est un coût de production interprofessionnel.
Et ça n'existe pas aujourd'hui.
Le coût de production interprofessionnel existe. Et ce qu'on veut, c'est que dans le cadre de la loi Egalim, il soit reconnu comme étant le facteur qui permet de construire le prix en marche avant, ce qu'on a dit, c'est-à-dire une négociation entre les organisations de producteurs, puis l'industrie agroalimentaire à partir de cet indicateur qui protège la matière première agricole. C'est ça l'esprit de la loi Egalim. Et puis ensuite, la négociation classique. Il n'y a pas d'entente, il y a simplement le fait de dire qu'on construit encore une fois le prix, c'est-à-dire on ne fait pas aujourd'hui ce qui ne nous va pas, c'est-à-dire une négociation entre l'industriel et la grande distribution, puis après on vient le producteur en disant voilà ce que je peux vous payer, débrouillez-vous.
C'est remettre le producteur dans la chaîne, c'est ça ?
Exactement, vous savez, on a eu 10 ans de déflation, Et on voit que ça a détruit de l'emploi, de l'activité.
Mais qu'est-ce que vous reprochez à la mesure du plancher de Emmanuel Macron?
Non, mais prix plancher, ça donne le sentiment qu'il y aurait une espèce de conférence annuelle ou de conférence trimestrielle où on décréterait que la viande vaut tant. Nous, c'est pas ce qu'on dit. On dit, nous, on a des coûts interprofessionnels. Interprofessionnels, ça veut dire qu'il n'y a pas que les producteurs autour de la table. Hein.
Mais est-ce que ce prix plancher, vous l'appliquez pour l'exportation? C'est pas possible.
Non, et puis encore une fois, Egalim ne concerne que la grande distribution. Vous savez, il y a près de 50% de ce que les Français consomment qui ne passe pas par la grande distribution. Donc,
D'accord. On
dit que ça concerne l'élevage, d'abord, puisque les lois Egalim ne concernent pas la production végétale.
Les lois Egalim, les lois qui permettent d'assurer un revenu décent.
Le juste revenu, juste absolument.
Pour les producteurs.
Et donc, ces lois qui ont été votées par le Parlement, il y en a même eu deux, puis une PPL d'un député, M. Descrozailles, qui a complété le dispositif et qui va entrer en œuvre dans quelques jours. Et donc, ce qu'on observe, c'est que c'est important de garantir la pérennité. Une entreprise qui ne peut pas couvrir ses coûts de revient, elle disparaît. C'est assez simple. Ça, pour le coup, tout le monde comprend. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire en sorte qu'à partir de ces coûts de production, et qui ne sont pas celui du producteur, on ne va pas aller chez monsieur un tel ou madame un tel, regarder quel est son coût personnel. C'est des coûts de production interprofessionnels. Et à partir de ce coût-là, on construit en marche avant.
Derrière, ça soulève une autre question. Il y a une différence énorme, j'imagine, de coûts de production entre une petite exploitation et des très grandes exploitations. Qu'est-ce qui permet de fixer un prix de production? C'est la petite exploitation ou la très grande?
Justement, ce coût interprofessionnel, mais je vous invite à aller le regarder, il est fait de sorte qu'on prend toutes les typologies, tous les modèles d'exploitation, et que ce ne soit pas construit pour tel ou tel secteur ou tel ou tel territoire, mais bien pour l'ensemble.
Donc tout le monde s'y retrouverait.
C'est une moyenne. En tous les cas, ce critère, il n'est pas remis en cause au niveau de l'interprofession, dans la manière dont il se construit. Après, certains disent on le prend plus ou moins. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut le prendre plus. Après, il y a des éléments de marché, évidemment, et personne n'en dit ce qu'on vient, notamment quand on exporte. Quand vous êtes sur le prix mondial du lait avec du beurre poudre, la réalité, c'est que tout le monde se moque de savoir ce qui se passe sur le territoire national français.
Il y a un risque pour la compétitivité de l'agriculture française. François Langlais sur RTL a expliqué cette semaine qu'il y a un non-dit dans ce débat et dans cette crise. C'est la perte de compétitivité de la France avec une agriculture moins performante qu'en Allemagne, qu'en Espagne ou aux Pays-Bas. Est-ce que vous partagez ce constat?
Oui, je partage ce constat. On a un sujet de compétitivité, mais il suffit de regarder le nombre de fermes qui ont disparu depuis des années. Notre objectif, on n'est plus que 400 000 producteurs agricoles français, dont 100 000 font moins de 25 000 euros de production brute standard. On va simplifier de chiffre d'affaires.
C'est aussi un changement de modèle, non? C'est pas seulement il y a une question de génération, bien évidemment, de gens qui partent à la retraite, mais c'est aussi une question de modèle, non? Les petites exploitations sont-elles viables aujourd'hui?
Mais si elles sont sur des marchés positionnés avec de la forte valeur ajoutée, avec de la vente à la ferme, avec du lien direct consommateur, il y en a certaines qui se portent très bien. Très bien. Et par ailleurs, vous avez des grandes exploitations qui peuvent être en situation beaucoup plus délicate. Donc la taille n'est pas une fin en soi. Ce qui est sûr, c'est que comme dans toutes les entreprises, il y a un point mort et que plus vous êtes capable d'aller chercher de la valeur au-dessus, plus vous vous rémunérez. Je voudrais rappeler que les revenus en agriculture, on n'est pas dans l'industrie. On est avec des revenus qui sont entre 20 et 40 000 euros en fonction des années pour des besoins en financement.
Alors,
très
où
importants.
Où se joue la compétitivité de l'agriculture française, cette compétitivité perdue?
Elle peut se jouer évidemment au niveau de l'entreprise. C'est tout le travail qu'on fait sur les charges. Comme le reste des entreprises, si je puis dire, c'est évidemment le positionnement du marché, comment on arrive à segmenter le marché. C'est le marché intérieur, mais c'est aussi l'exportation. Prenons l'exemple des céréales. On est en train de se faire tailler des croupières par les Russes, à qui on exportait du blé dans les années 2010 et qui aujourd'hui inondent le marché, notamment sur nos marchés de proximité. Je pense au bassin méditerranéen.
Ou les Ukrainiens?
Non, je parle bien des Russes.
Les Russes, ouais.
Les Ukrainiens, par ailleurs, vous savez, les Russes ont envahi la Crimée en 2014 et avaient fait le choix stratégique de dire maintenant on va produire ce qu'ils ont rempli. Et aujourd'hui, ils exportent des quantités très importantes de blé, notamment sur nos marchés de proximité dont je parlais. Et quand vous arrivez et que vous n'êtes pas compétitif sur ces marchés, vous ne passez pas. Donc ça, c'est une réalité très concrète.
Arnaud Rousseau, vous évoquiez tout à l'heure 400 000 producteurs agricoles en France, moyenne d'âge 50 ans. D'ici 2030, la moitié d'entre eux partira.
La moyenne d'âge, c'est 52 ans d'agriculture aujourd'hui, et dans l'élevage, c'est plutôt 55 ans.
Et d'ici 2030, donc la moitié des agriculteurs devraient partir à la retraite. Est-ce qu'on risque de manquer tout simplement d'agriculteurs pour faire tourner la production agricole française?
C'est une vraie préoccupation, et d'attirer des talents, comme dans d'autres secteurs d'activité, mais en agriculture, c'est un vrai challenge. Et c'est aussi pour ça que ce qu'on vit comme période nécessite qu'on donne une vision. Parce que pour attirer des jeunes dans ce métier, même s'il y a encore des passionnés, on a besoin, à un moment, de concrétiser le fait que, comme tous les secteurs d'activité, on peut investir, on peut se développer, on peut avoir une vision, on peut surtout avoir du revenu. Et donc, pour donner ce signe, c'est maintenant qu'on a besoin de bouger. Et attirer des jeunes, ça se fait aussi avec des possibilités d'accompagner les reprises. C'est ce qu'a annoncé le président de la République.
Avec
c'est ce qu'on
la
veut
loi
voir.
Qui va être
c'est
présentée.
Ce qu'on veut voir dans la loi d'orientation agricole, dans laquelle on va faciliter les transmissions d'entreprises, comme
faciliter
le pacte du Treil.
Ça veut dire que, très concrètement, sur le plan fiscal... pouvoir léguer une exploitation sera quasiment pas fiscalisé, c'est bien ça l'idée ?
Non, pas fiscalisé, c'est pas exact, mais en tous les cas, très largement supporté, pour faire en sorte que celui qui est arrivé au terme de sa carrière professionnelle puisse partir. Et on a aujourd'hui des exploitants qui restent encore en activité très tardivement, tout simplement parce que le niveau des retraites est extrêmement faible, le plus faible en agriculture de tous les secteurs agricoles, ce qui est aussi un objectif de la réforme. Hein. Parce qu'on a parlé, vous avez cité beaucoup d'avancées. La réforme des retraites qui a été votée à l'unanimité des parlementaires il y a un peu plus d'un an n'est toujours pas beaucoup avancée. Elle doit se mettre en œuvre au 1er janvier 2026. Et au moment où je vous parle, j'ai de fortes inquiétudes sur le rythme. Vous voyez, ça aussi, c'est une discussion qu'on a eue avec le président de la République. Voter à l'unanimité du Parlement, ce n'est pas si courant.
Parler de la réforme des retraites spécifique aux agriculteurs.
Absolument. Mmh. La réforme des retraites en agriculture pour faire en sorte que on prenne, comme tous les autres secteurs d'activité, les 25 meilleures années de la carrière professionnelle. Eh bien là, on n'est pas. Et donc, pour réussir la transmission, il faut qu'on facilite les transmissions d'entreprise, donc c'est la fiscalité, il faut qu'on attire des talents, il faut qu'on mette du revenu, de la compétitivité, et puis il faut qu'on permette à ceux qui partent d'avoir une retraite digne.
Hier, Emmanuel Macron a aussi annoncé un plan de trésorerie d'urgence pour les exploitations qui sont en difficulté. Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que vous redoutez une usine à gaz ?
Non, c'est très attendu par un certain nombre de nos collègues qui subissent des situations difficiles.
Donc en gros, on va recenser les exploitations qui sont en difficulté pour les aider, c'est
ça ? Oui, ce que ne voulait pas le président de la République, et il l'expliquait très clairement, c'est ce qu'on appelle l'année blanche. C'est-à-dire l'idée que, quelle que soit la typologie des entreprises et le secteur, finalement...
C'est ce que demandait votre syndicat concurrent, la Confédération Paysanne.
Oui, et la coordination rurale également.
Pardon, la coordination rurale.
Le président de la République a dit qu'il ne ferait pas ça. En revanche, nous sommes conscients que dans un certain nombre de cas, il y a des situations extrêmement tendues. Et puisque moi j'appelle à se projeter, il faut aussi comprendre que quand vous ne savez pas comment vous finissez le mois, ce n'est pas la peine de parler de la fin de l'année.
Ça veut dire quoi un plan de trésorerie d'urgence ?
Ça veut dire que là, dès lundi, les préfets sont invités à recenser les situations les plus dramatiques par territoire, parce que la situation d'un viticulteur de l'Hérault n'est pas la même que celle d'un viticulteur en Champagne, tout le monde comprend. Et ensuite, c'est regarder comment on pourra accompagner avec un certain nombre de prêts bonifiés. Ça vient d'être fait en viticulture. On doit pouvoir le faire avec d'autres secteurs d'activité, mais là encore, avec des seuils, parce qu'il ne faut pas laisser penser que tout ça va se faire...
Oui, on imagine qu'il y aura des critères à respecter.
Bien sûr.
Évidemment,
bien
vous craignez que certains soient néanmoins mis de côté.
Je vais attendre que le travail se mette en place. Ça commence demain. On n'a pas encore parlé des critères, mais le président de la République a donné la direction. Et encore une fois, c'est attendu par un certain nombre de nos collègues de manière très forte. Et il faut le mettre en place. Donc ça commence demain. Les préfets, dès demain, sont sommés de relever avec la profession agricole, avec nos chambres d'agriculture, avec tous les acteurs, évidemment les banques, la MSA, tous ceux qui ont des voyants qui s'allument dans un certain nombre de situations professionnelles. Ensuite, on va discuter des critères. Mais là encore, il faudra qu'on soit ajusté. Et puis ensuite, on veut que ce soit bonifié, évidemment, au regard de ce qui se passe. Ça vient d'être fait, encore une fois, pour la viticulture, donc on imagine que ce système serait réplicable.
Emmanuel Macron s'est aussi engagé à reconnaître l'agriculture comme un intérêt général majeur de la nation française. Ça serait au même titre que la sécurité ou la défense nationale. Qu'est-ce que ça peut changer, cette idée ?
Eh bien, écoutez, pour nous, ça change tout, parce que là, on revendique d'en avoir été les porteurs depuis longtemps. Et vous voyez, c'est difficile à expliquer, parce que moi, beaucoup d'agriculteurs m'ont dit « mais en fait, ça change quoi dans ma ferme ?» Vous voyez, parce que ce qu'ils disent au président de la République, ils nous le font remonter.
Juste pour arrêter l'idée de la souveraineté, ça veut dire que les agriculteurs français seraient en capacité de nourrir les Français, c'est bien
non,
ça
Non, ça n'est pas ça. Sur le plan juridique, pardonnez-moi, je ne suis pas juriste, mais je vais vous expliquer l'agriculture reconnue comme étant d'intérêt général majeur. Sur le plan juridique, ça positionne l'agriculture en équilibre avec l'environnement. Et c'est important pour nous, parce que nous, on est à la croisée des chemins. On a besoin de produire, et en même temps, l'environnement, c'est notre quotidien. Nos terres, nos prés, c'est la manière dont on a de conduire une écologie qu'on appelle, de nos voeux, une écologie constructive, mais qu'on oppose à une écologie de l'incantation ou de la punition.
Dans la Constitution, on va écrire que la...
Non, ça n'est pas dans la Constitution, hein, pas
d'accord.
du tout. Non,
parce que, par exemple, l'environnement, on l'a introduit dans la Constitution.
Oui, le préambule, mais encore une fois, là, on parle du code rural.
Ça veut dire concrètement, par exemple, sur les projets de méga-bassines, vous aurez plus de poids pour les défendre face aux contestataires.
Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une méga-bassine, mais pour le stockage de l'eau, en tout cas, les réserves de substitution, puisque c'est comme ça que nous, on les appelle, oui, ça pourra permettre, en fonction, encore une fois, de la reconnaissance du caractère d'intérêt général, puisqu'il ne faut pas non plus expliquer que tout va être permis, ça n'est pas le cas. Mais simplement, ça permettra de venir positionner qu'à un moment, il faudra qu'on arbitre, et quand je dis « on », c'est le juge, hein, entre le droit de l'environnement et l'agriculture reconnue d'intérêt général majeur.
Pour résumer, ça veut dire l'avenir de la planète, c'est important, mais le fait de nourrir les gens, ça a exactement la même valeur. Enfin, c'est aussi important.
C'est exactement ça. L'idée, c'est d'équilibrer pour faire en sorte que on ne continue pas à finalement dire on va protéger l'environnement chez nous, ce qui a du sens. Et je voudrais dire que les agriculteurs, ce sont les premiers à le faire. Et parce que ce sont les premiers écologistes, j'ai l'habitude de le dire. Et de l'autre côté, si on dit, chez nous, on a tout protégé, mais tout vient d'ailleurs, et le carbone, et les mesures qui ne respectent pas nos standards et nos qualités, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup avancé. Et donc l'idée d'équilibrer et de laisser ça au juge comme décision nous paraît de nature à aussi donner une direction. On ne fera pas n'importe quoi. Je veux être précis, si vous permettez, parce que je ne voudrais pas qu'on laisse penser que finalement, c'est contre l'écologie. Ce n'est pas contre l'écologie, c'est à côté de l'écologie. Et comme on fait dans une famille, on essaie d'arbitrer entre les intérêts. Nous, on veut continuer à porter l'ambition de l'environnement, du climat. On est les premiers impactés sur le climat. Donc on veut le faire, mais d'autre côté, il faut aussi qu'on continue à produire en France. Si on ne le fait pas, on aura tout perdu.
Mais justement, à propos d'environnement, le gouvernement a annoncé qu'il changeait l'indicateur pour mesurer la consommation de pesticides. L'indicateur européen est moins sévère que celui qui était utilisé jusque-là en France. Le gouvernement reprend donc très clairement une demande qui était la vôtre. Pas d'interdiction aussi de produits chimiques sans solution. Sur ce volet-là, ce n'est pas un recul sur le plan de l'écologie.
Pardonnez-moi, d'abord, l'indicateur européen, il n'est pas moins disant que l'indicateur français. Il ne mesure pas la même chose.
Il y a notamment l'Agence fédérale allemande de l'environnement qui dit que vous pouvez baisser, mesurez des baisses.
On avait un indicateur, mais pour vos auditeurs, pour que ce soit simple, dans lequel on mesurait le volume.
Oui.
Le fameux NODU, on mesurait le volume. Mais tout le monde comprend que caractère impactant d'un produit ne se mesure pas au volume. Vous pouvez avoir quelques grammes qui sont de faible volume, mais très impactant sur l'environnement, et parfois des volumes en très grande quantité, avec des nocivités qui sont très peu impactantes. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que ces fameux plans éco-phyto, ça ne marche pas depuis 15 ans. Et tout le monde en fait le constat, les associations environnementales, le monde agricole, c'est une stratégie perdante. Bon. Et donc, nous, on constate que les agriculteurs, malgré tout, ont fait des efforts. Si vous ne donnez jamais acte à un agriculteur qui fait des efforts, que finalement c'est reconnu, c'est une stratégie dans laquelle vous n'emmenez personne. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à faire des efforts. Parce que d'abord, on n'est pas les représentants des vendeurs de produits chimiques. Nous, on a besoin de solutions sur nos fermes pour ne pas se retrouver en impasse. Ça me semble assez facile à comprendre. On dit qu'à chaque fois qu'il y a des alternatives, et le gouvernement vient annoncer des moyens très conséquents pour trouver des alternatives, et ça va dans le bon sens. Mais ne nous mettons pas dans des impasses. Et par ailleurs, on est cohérent puisqu'on dit qu'il faut simplifier. Il y a un indicateur européen qui aujourd'hui mesure ça à l'échelle européenne. Bien, puisqu'on dit qu'on veut simplifier et puisqu'on dit qu'on ne veut pas surtransposer...
sera le premier éco-phyto qui va fonctionner.
Ben, en tous les cas, nous, on l'appelle de nos voeux, parce qu'encore une fois, je vous dis, si on veut s'améliorer, tout le monde comprend bien ça. En termes d'accompagnement des dynamiques collectives, il faut se donner un peu de lumière au bout du tunnel.
Mais vous n'appelez pas...
systématiquement, on vous dit que c'est l'échec, évidemment, vous n'emmenez personne.
Donc vous n'appelez pas à l'arrêt du plan éco-phyto? Vous considérez que ce changement d'indicateur est suffisant?
Pas du tout, on ne l'a jamais appelé. Non, il n'y a pas que ça dans le plan éco-phyto. Hein. Il y a aussi les sujets de registre. On a dit que ce n'était pas la peine de faire un registre franco-français alors qu'on avait besoin d'un registre européen. Il y a des sujets de zonage sur lesquels il faut qu'on regarde. Mais vous savez, c'est assez complexe. Ce que je veux que vos auditeurs retiennent, c'est qu'il n'y a pas de volonté du monde agricole de dire « on va faire n'importe quoi ». Je veux redire ici que les sujets environnementaux sont une préoccupation de tous les jours pour tous les producteurs agricoles. Mais que ça ne se fait pas dans des bureaux avec des incantations ou de l'écologie punitive.
Qu'est-ce que vous répondez toutefois à ceux qui s'inquiètent du renouvellement, par exemple, pour 10 ans du glyphosate? Qu'est-ce que vous leur répondez?
Je leur réponds que, d'abord, le glyphosate a été renouvelé par une homologation de l'Agence sanitaire européenne. Donc, elle a rendu un avis. Ça a été arbitré par les États membres qui, n'ayant pas trouvé de position, la Commission l'a fait. Et je voudrais dire surtout, de manière très concrète, on a un objectif de décarbonation en agriculture et que le glyphosate, c'est aujourd'hui le produit qui permet en production végétale d'atteindre le plus haut niveau de décarbonation. Je veux aussi être précis.
Vous savez qu'il est très contesté.
Ça ne m'a pas échappé, je vous rassure. Mais je dis qu'aujourd'hui, il a été réhomologué et que si demain, on trouve une alternative au glyphosate, on n'a pas de problème pour changer de produit. En revanche, il faut nous donner les moyens de décarboner. Et l'agriculture de conservation des sols, celle qui couvre le sol le plus longtemps, elle a besoin d'un petit peu de glyphosate, un litre et demi par an. Et donc, ce serait une erreur de ne pas le faire. Parce que vous voyez, c'est ça le problème de l'agriculture. C'est qu'on veut tout et son contraire. On dit, on ne veut pas de produits phytosanitaires, mais on veut décarboner. On veut de la production de qualité, de proximité, de naturalité, parce qu'on est fiers de ce que font les Français, mais on achète à l'extérieur. Et ces injonctions paradoxales, elles sont plus tenables. Donc je le dis, notamment dans le pays où les Français consomment énormément de médicaments, on est les premiers consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, qu'en agriculture, nous, on n'est pas dépressifs, on a simplement besoin qu'on nous donne les moyens d'avancer. Et que pour le faire, il faut être cohérent.
Aurélien Arnoux-Rousseau, pardonnez-moi, dans le début de cette émission, quand je vous ai présenté, je disais que vous étiez céréalier et également président du conseil d'administration du groupe agro-industriel Avril, un groupe qui est spécialisé dans la transformation et la commercialisation des produits issus des graines de colza ou de tournesol. Et c'est ce qui donne notamment les marques que tout le monde connaît, les huiles Puget ou Le Sieur. Est-ce que vous êtes l'un des tenants du système agro-industriel qui appauvrit les agriculteurs et les agricultrices, comme le dénonce Greenpeace notamment?
Une question tout en nuances. Je vais vous répondre.
C'est une interpellation de Greenpeace,
puisqu'ils ont mené notamment
Ils ont mené notamment des actions contre votre
groupe. Merci de me donner l'occasion d'éclairer ce point. Ce que je voudrais que vos auditeurs comprennent, c'est que quand ils ont un paquet de farine sur leur table, quand ils ont un litre de lait, quand ils ont une bouteille d'huile sur leur table, entre la ferme et chez eux, il s'est passé une transformation. Et or, les fruits et légumes et le miel, tous nos produits nécessitent d'avoir une transformation. Et que depuis le début, je vous explique que les agriculteurs se battent pour leur rémunération et qu'ils ne veulent pas se faire capter la valeur dans la chaîne. Et il y a 40 ans, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui se sont dit, plutôt que de en permanence commenter, on n'est pas plus sot que les autres, on va investir dans un modèle d'entreprise dans lequel... Et j'insiste sur ce point, tous les bénéfices seront réinvestis au profit du développement de la ferme France. C'est ça qu'est le groupe Avril. C'est un groupe d'agriculteurs pour les agriculteurs. Et comme depuis 40 ans, tout ce qui a été gagné a été réinvesti, aujourd'hui c'est un groupe de taille importante.
Et donc, qui protège l'agriculture. Donc Avril est vertueux, mais par exemple Lactalis.
Non mais attendez, vous inviterez M. Beignet à venir commenter. Ce que je veux dire, c'est que c'est important d'avoir des champions dans nos domaines, parce que ça protège la production en France. Je sais qu'il y a des discussions difficiles en ce moment avec Lactalis sur le prix du lait. Je le sais. Et évidemment, je suis cohérent en expliquant qu'on a besoin de construire le prix en marche avant et qu'on ne peut pas négocier.
Dans la crise agricole, cet étage-là, entre guillemets, celui que vous décrivez, qui est celui de la transformation, a été quand même largement accusé de capter la valeur, quelque part, qui était produite par les agriculteurs.
Vous savez, on est dans un système où on dit « c'est pas moi, c'est les autres ». Donc l'industrie agroalimentaire, qui dit elle-même que c'est la distribution, tout ça est très sympathique.
On peut dire que c'est les consommateurs aussi.
Ou le consommateur qui ne paye pas. Enfin, il y a toujours « c'est jamais moi, c'est les autres ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les agriculteurs comprennent que quand on s'occupe de l'aval de son exploitation, on crée de la valeur. Je voudrais rappeler qu'il y a des coopératives agricoles. Avril n'est pas un modèle coopératif, mais Avril est un modèle qui est capitalistiquement détenu par le monde agricole, qui ne verse pas de dividendes. Donc le procès en agro-industrie, vous voyez ce qu'il y a derrière. Ben, il faut juste venir voir ce qu'est le modèle. J'invite tous les journalistes que ça intéresse à venir.
Si je voulais caricaturer, je pourrais aussi dire que c'est comme si la CGT était dirigée par un grand patron, si vous voulez.
Ça vous explique pourquoi on n'est pas la CGT et pourquoi nous, notre objectif, c'est le syndicalisme à vocation économique. C'est ce qu'on est depuis 78 ans. Comment on construit de la valeur et des filières.
Est-ce qu'il y a des fois, ça ne vous met pas en porte-à-faux? En janvier, les représentants de la FNSEA avaient approuvé Ecophyto, vous avez exigé son abandon, puis finalement donc son aménagement. Sur la hausse de la fiscalité sur le gasoil, vous étiez signataire du principe et ensuite vous l'avez dénoncé. Est-ce que vous avez fait des erreurs ou est-ce qu'il y a des moments où vous aviez des intérêts qui étaient finalement un peu contradictoires au niveau de votre syndicat?
La FNSEA, elle regroupe tout type d'agriculture, tout type de territoire. Et donc on a effectivement régulièrement des discussions qui ne sont pas faciles. Mais c'est aussi ça notre force. C'est que regroupant des productions de différents territoires, des typologies d'exploitation très différentes dans des secteurs qui peuvent à des moments être avec des contextes économiques très différents, on essaie de faire des consensus. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas par ailleurs qu'on ne commet pas des erreurs, je dis simplement que c'est ce qui porte l'ambition de l'agriculture et que nous on est très clair sur le fait que le goût d'entreprendre en agriculture, la construction de la valeur, le prix et la transmission dans un cadre économique est notre cœur de système. Et en cela, Avril est très cohérent.
Loris Boischot.
Un mot sur l'utilisation de l'eau qui inquiète, effectivement, puisque l'agriculture recourt de plus en plus à l'irrigation avec les sécheresses. Comment est-ce que vous éviterez ce qu'on appelle les conflits d'usage avec les habitants, les industries et les centrales nucléaires? Est-ce que vous devrez réduire l'usage de l'eau?
D'abord, l'agriculture, elle utilise aujourd'hui 30% de moins d'eau qu'en 2000. Par ailleurs, vous avez raison, elle aura besoin d'eau, elle a besoin d'eau, elle aura besoin d'eau. Pas seulement l'agriculture d'ailleurs, pour des aspects multi-usages. On pourrait parler des centrales nucléaires, mais de l'eau de tous les jours dont on a besoin, vous et moi, pour se nourrir, s'habiller, se laver. Et donc, le sujet de l'eau, on l'a dit, est central. C'est assez simple, il n'y a pas d'agriculture sans eau.
C'est quoi, c'est la guerre de l'eau que vous nous annoncez?
Non, pas du tout. Nous, justement, pour éviter les tensions sur l'eau, on pense qu'il est encore largement temps d'agir, mais qu'il faut le faire maintenant. Parce qu'on observe, dans certaines régions, des tensions de plus en plus fortes. Prenons l'exemple des Pyrénées-Orientales, qui est le département qui subit la plus grande difficulté sur le plan climatique depuis maintenant près de 2 ans. À certains endroits, il est tombé en 1 an un peu plus de 100 mm, au lieu des 5 à 600 annuels. Donc la tension est très forte. Et ce changement climatique, les agriculteurs le voient. D'ailleurs, les situations ne sont pas les mêmes, puisque vous voyez que dans le Pas-de-Calais, on a eu d'autres sujets. Qu'est-ce qu'on dit, nous, à la FNSEA? On dit qu'on aura de plus en plus des problématiques. Et ce qu'il faut, c'est maintenant se mettre à l'œuvre pour stocker l'eau, pour l'agriculture, mais pour d'autres secteurs. On ne stocke aujourd'hui en France que 7% de l'eau d'irrigation dont on a besoin. On n'irrigue que 7% des terres. On a très peu, on est beaucoup moins en stockage, hein, on stocke quelques pourcents seulement. Et vous voyez que quand il pleut beaucoup, ça a du sens de stocker l'eau, parce qu'encore une fois, il faudra produire.
D'eau. Merci beaucoup à Arnaud Rousseau pour ce grand jury. Je vous donne également un rendez-vous sur RTL. RTL sera en direct du Salon de l'Agriculture mardi matin, notamment, mais avec toutes les équipes des matinales. Et nous recevrons le Premier ministre Gabriel Attal pour sa première interview radio depuis qu'il est à Matignon. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.